c'est pas du vent.
Non, je l'ai pas fait.
Ça a terminé là-bas.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Igor Strauss.
Une végétation luxuriante et abondante, un climat tropical, les eaux cristallines de la mer des Caraïbes à l'ouest et la barrière de corail de l'océan Atlantique à l'est, nous sommes en Martinique, la petite île du poète Aimé Césaire, un paradis miniature proche de l'Amérique du Sud. Bananes, cacao, café, canne à sucre, ici tout pousse, vous disent les habitants, même les mauvaises herbes. Alors pour tenter de dompter cette biodiversité exceptionnelle, l'usage des pesticides est devenu la norme et atteint son paroxysme. Avec le scandale du chlordécone, un insecticide toxique et persistant, utilisé massivement dans les bananeraies pendant plus de 20 ans, jusqu'à son interdiction en 1990. Mais de nombreux sols restent pollués de nos jours. Alors pour inverser la tendance, quelques producteurs ont choisi de se lancer dans l'agriculture biologique. Et ça marche. Banane bio, cacao bio et même rhum bio. Martinique, le bio sous les tropiques. C'est notre reportage du jour. Bonjour et bienvenue. On commence notre périple dans la commune du Lorrain, au nord-est de l'île, côté océan Atlantique, dans la seule et unique bananeraie bio de Martinique.
En voilà.
Michel Blondel-Larougier, agriculteur. Nous avons commencé à faire nos recherches depuis 2004 et nous avons passé en bio en 2014.
Et donc vous, ça fait combien de temps que vous êtes ici en Martinique ?
Ah ben, je suis né en Martinique.
Ah, vous êtes né là ?
Je suis né en Martinique, oui.
Et qu'est-ce qui vous a poussé à passer au bio en 2014 alors ?
Eh ben, un ami qui m'a dit, mais Michel, écoute, le glyphosate, c'est une saloperie, essaye d'arrêter ça. Et comme j'avais envie de diminuer mes intrants, je me suis dit, bon, je vais faire un essai. Mais ce n'était pas du tout pour faire du bio. Hein. C'était simplement pour diminuer un intrant, supprimer un intrant. Hein, en conventionnel, sans intrants, vous ne faites pas de tonnage. Donc il fallait supprimer petit à petit des intrants, même si on devait la remplacer par la main d'œuvre, ce n'est pas grave. Nous, quand on a arrêté le glyphosate, on a passé à la coupe de l'herbe et ça m'a coûté le même prix que le coût du glyphosate. Le même prix. Donc je me suis dit, ben, on y va. Et puis voilà, petit à petit, les choses ont commencé à se mettre en place. La nature a commencé à travailler pour moi, quoi. Et donc on a supprimé les insecticides. Aujourd'hui, tout ça se tue entre eux. Hein. La nature se règle.
Est-ce que le scandale du chlordécone des années 90, donc ce polluant extrêmement toxique, est-ce que tout ça, ça a joué ou pas du tout ?
Oui, ça a joué, puisque on utilisait énormément de produits. Et moi, quand j'ai fait ce pas, et bien, j'ai vu que c'était possible. Mais pourquoi ? Parce qu'il y avait des choses qu'on ne connaissait pas et que même en France, on ne connaît pas. Puisque quand je suis venu à Cuba, et que j'ai demandé à mon ami cubain de me donner un coup de main sur l'agriculture biologique, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, mais Michel, vous êtes français, c'est vous les Français qui êtes les pionniers. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu me racontes là ? Il me dit, mais oui, nous sommes venus en 1940 aller voir un agriculteur en France, qui était M. André Voisin, qui lui avait découvert que sans micro-organismes, on ne pouvait pas travailler les sols. Et petit à petit, il a commencé à travailler avec les micro-organismes et tout a changé. Et c'est ce monsieur que Fidel Castro a été chercher. Il a fait venir à Cuba et ça a été la bible de l'agriculture biologique à Cuba. Hein. C'est fou. Hein.
Ouais, c'est qu'il y avait un savoir-faire qui était déjà là, mais que finalement on n'utilise pas.
Les Français n'en voulaient pas.
Mais pourquoi ils n'en voulaient pas ?
Ils n'en voulaient pas parce que c'est de la folie. C'était penser que la nature peut soigner quelque chose. Mais attends, à l'époque, c'était fou, quoi. Hein.
Ben, c'était fou à l'époque, mais c'est encore fou aujourd'hui parce que vous êtes le seul à faire de la banane bio. Pourquoi est-ce que les autres planteurs de bananes rechignent à faire du bio selon vous ?
C'est pas qu'ils rechignent, c'est qu'il n'y a aucune donnée scientifique. Il n'y a rien. Et comme la banane aux Antilles représente énormément au niveau social et économique, ils ne peuvent pas du jour au lendemain se dire mais on va faire du bio.
Là, on est en haut d'une colline.
Oui.
Au milieu des bananes, c'est un paysage absolument somptueux. Ouais. Et là, vous nous emmenez où, donc ?
Ah bien, on va aller en bordure de la forêt, hein, où je vais vous montrer comment récupérer les micro-organismes que nous multiplions et que nous remettons dans nos sols pour les réensemencer. Voilà.
Et je vois toutes les bananes, là, elles sont entourées de sacs plastiques. Pourquoi ?
Le sac plastique était pour
éviter qu'on ait des insectes. Ce sont des trips qui sont du sol, qui vivent dans les herbes, qui remontent le tronc du pied de banane et passent sur la rampe de la banane pour aller piquer la banane. Et quand elle est piquée, ça vous fait, quand elle est mûre, plein de petits points noirs. Et ça, ce n'est pas, c'est pas commercial. Moi, comme le trips, je ne l'ai plus. C'est-à-dire, il est là, mais l'auxiliaire du trips l'empêche de nuire. Hein, on a voulu essayer de supprimer le poulie. Le souci, c'est que ce sont les colibris.
Donc, ces petits oiseaux, magnifiques, propres aux Antilles.
Exactement. Qui vont piquer le bout de la banane quand elle est jeune, pour prendre un petit peu le sucre au bout de la fleur. Et avec les pattes, comme les pattes bougent tout le temps, les pattes abîment la peau de la banane, mais très finement. Donc ça ne fait rien du tout à la banane à l'intérieur. Mais commercialement, pareil, le client n'a pas l'habitude d'avoir une banane qui est un peu abîmée. Donc,
avec des traces de pattes de colibri, voilà. Pourtant c'est plutôt sympathique.
C'est magnifique, c'est magnifique. Donc on aurait pu supprimer ce poulie bleu. Hein, mais là, on est obligé quand même de le mettre pour vendre cette banane.
On rentre dans la forêt, c'est magnifique, hein. C'est la forêt tropicale, c'est absolument sublime.
Ça n'a rien à voir avec la banane, mais là, tu vois les éruptions de la montagne pelée.
Voilà, voilà, ça, c'est la montagne pelée, là. Ouais.
La montagne pelée qui a...
ça, c'est les cendres du volcan, ça.
Les cendres du volcan.
Alors donc, juste pour faire un petit peu d'histoire, la montagne pelée, ce volcan au nord de l'île, il y a une éruption, donc il y a une centaine d'années, en 1902, et ça a rasé cette magnifique ville Saint-Pierre qu'on appelait le Petit Paris.
Exactement, exactement. Ça a été terrible, hein, la Martinique.
Je crois que plus de 30 000 morts, hein, c'est ça.
Ah oui, et puis c'est pas ça, c'est que c'était la capitale.
Et nous, on est de l'autre côté de Saint-Pierre, là, mais toujours près de la montagne Pelée.
Exact. Nous sommes sur la côte atlantique. Je vais vous montrer pourquoi j'ai fait ce chemin. C'est là que nous allons récupérer de l'eau, justement, pour mettre nos micro-organismes. Alors, aujourd'hui, tout ce que je peux faire, c'est avec un tracteur pour semer mes micro-organismes dans les sols, c'est mettre un système de fertirrigation. C'est-à-dire mettre un système d'arroseur sous la banane qui pourra semer plus facilement tous les micro-organismes et tous nos engrais liquides que nous faisons, toutes nos bactéries et nos champignons. Mais pour ça, on est obligé d'avoir de l'eau propre. Donc là, on va aller pour vous, je vais vous montrer où on va récupérer cette eau, qui est une eau magnifique. Elle est naturellement dynamisée.
C'est-à-dire ?
Comment vous dire ? Allez, je vais vous dire quelque chose qui va faire peur à tout le monde, mais il faut qu'elle soit chargée par le cosmos. C'est pas des blagues, vous rigolez, mais c'est pas des blagues. Tout est dans l'air. Tout est dans l'air. Si vous regardez l'agriculture biodynamique, c'est ça. Elle n'a pas que de l'oxygène. Elle a tout ce qui vient du cosmos qui est là, qui est autour de nous et qui fait qu'on peut être bien ou être mal ou être être bien dans la peau, bien dans sa tête.
Là où qu'à monter, il faut qu'on prenne précaution.
Mille à manger, tu es mille.
M'en vais jamais, dis-moi, liché mon nom.
Mille de moi, pas attention, mon nom.
La jalousie qui fait mon divague.
Mille à manger, tu es mille.
Où dans pays, tout bagaille, c'est magie.
Mille de moi, pas attention, mon nom.
M'en vais jamais, dis-moi, liché mon nom.
Mille à manger, tu es mille.
Ah, c'est l'eau qu'on entend là.
Il y a une cascade et puis le bassin qui est en dessous.
Voilà comment c'est magnifique.
Voilà. Donc c'est là que nous allons récupérer l'eau. Mais l'avantage c'est que c'est une eau qui est vraiment magnifique. Mes enfants, tout le monde la boit. Aujourd'hui, l'agriculture bio, et surtout le Martiniquais, est un peu, comment vous dire, sur le bord du chemin. Il y a des aides pour le bio, mais ils ne peuvent pas les avoir. Par manque de moyens uniquement, c'est pas à faute de l'État. Il y a des aides qui sont mises en place. Mais pour ça, il faut se structurer.
Prenons le cas de la politique agricole commune, justement.
Oui.
Ça, vous bénéficiez de ces aides ou pas, ici, pour l'agriculture bio ?
Moi, la banane, non, pour l'instant. Pour l'instant, mais on est en train de travailler dessus. Mais pour le reste de l'agriculture bio, oui. Maintenant, il faut fédérer, il faut créer des associations ensemble, hein, pour qu'on puisse avoir la possibilité de bénéficier de ces aides. Alors à mon avis, c'est pas l'agriculteur qui doit bouger son cul pour aller le faire, c'est surtout l'administration qui peut dire, messieurs, nous avons des aides, rassemblez-vous, il faut faire une OP, voilà, on va vous aider, on fait une OP, etc. Et puis à ce moment-là, vous avez la possibilité d'avoir ces aides.
Une OP, c'est quoi? C'est
une OP, une organisation de producteurs.
Donc alors, vous, dans la banane, pourquoi est-ce que vous n'avez pas l'aide de la PAC, la politique agricole commune?
Eh bien, écoutez, le souci qu'on a, c'est qu'on ne pensait pas qu'on aurait pu faire de la banane Expo, hein, un produit bio. C'est pour ça, c'est uniquement pour ça. Personne n'y croyait, puisque c'était quasiment impossible. Nous sommes dans un pays, on a 3 mètres 50 d'eau par an, hein, donc tout pousse. Les insectes, les champignons, la production, tout pousse. Donc si on n'a pas des produits pour tuer ces insectes ou ces champignons, on ne fait pas de tonnage. Donc c'est pour ça que tout le monde disait, c'est impossible de faire de l'agriculture biologique. Aujourd'hui, avec le système que nous avons mis en place, eh bien, on utilise cette humidité. Puisqu'on utilise les champignons et on utilise les bactéries. Et à ce moment-là, on peut arriver à faire de l'agriculture biologique dans cette humidité. Demain matin, il y aura sûrement des produits que j'utilise qui seront utilisés par d'autres. Et comme ça, petit à petit, on pourra diminuer et finir avec les produits phytosanitaires, chimiques.
Même si de l'eau a coulé, même si la ligne glissait, les piles nous joignent. Nous partis sans boussole, nous vivons quand même. Pas tes supposés, chimères, tes félons, pas tes mêmes songes, je dis nous tes crayons.
Donc où est-ce qu'on va maintenant, Michel?
Eh bien, je vais vous montrer comment je fais mes compositions. Les micro-organismes, mes bactéries, comme ça.
Ok, allez, on remonte dans le 4-4. Et quels sont vos rapports avec les producteurs conventionnels de bananes? Bon, j'ai vu qu'au salon de l'agriculture, cette année à Paris, il y avait eu quelques petits soucis entre les producteurs de bio et les producteurs conventionnels.
Oui, alors le contact que j'ai avec les agriculteurs conventionnels, elles sont très bonnes. Bon, on m'appelle le fou, bien sûr, puisque qui aurait pu penser qu'on aurait pu faire ce genre d'agriculture biologique, voilà. Et au salon de l'agriculture,
En fait, il y a eu un slogan,
oui,
qui disait, rappelez-nous
mieux,
le slogan.
Mieux que bio, c'est possible.
Voilà.
C'était le conventionnel.
Qui laissait entendre que le conventionnel pouvait être mieux que bio.
Voilà.
Et on se demande ce que c'est que le mieux que bio.
Voilà. Eh bien, écoutez, bon, c'est un peu de la faute du conventionnel qui aurait pu faire passer le message mieux au niveau de l'agriculture biologique. S'ils avaient fait ça, on n'aurait pas eu ce souci. Le problème, c'est que on a des bananes qui sortent de pays tiers, comme l'Équateur, qui vend des bananes bio beaucoup moins chères que le conventionnel.
Mais est-ce que ce sont de vraies bananes bio ou est-ce qu'il y a une fausse appellation?
Pour eux, peut-être que c'est une bonne banane bio. Pour nous, en Europe, hein, ce n'est pas. Parce que nous, on est conforme à un règlement. Et les pays tiers, eux, ne sont pas conformes. Ils sont en équivalence.
C'est l'équivalent bio, mais c'est pas vraiment du bio.
Et c'est pas du bio. Et ils utilisent les mêmes logos que nous. C'est pas normal. Ils utilisent des produits que même le conventionnel n'a pas le droit d'utiliser. C'est fou. Et donc le conventionnel a voulu choquer en disant mieux que bio, c'est possible. C'est pas mieux que bio fait en Europe, c'est mieux que bio dans les pays tiers. C'est ça qu'ils ont voulu dire. Mais s'il avait dit, ça n'aurait pas fait un scandale. Moi-même en premier, j'étais pas content. J'étais pas content parce que ça m'a fait du mal. Mais quand j'ai compris pourquoi il avait fait, là j'ai compris que c'était normal. Et puis aujourd'hui, on essaye de faire que l'Europe puisse changer cette règle et que tous ces gens qui veulent vendre du bio en Europe, hein, soient conformes.
Alors, ici, une petite baraque en béton avec à l'intérieur des énormes cuves noires.
Voilà. Alors, ici.
Oh, il y a une odeur assez forte. Hein.
Ouais. Bon, une bonne odeur.
Ouais, ça dépend des goûts.
Santé, c'est une odeur de mélasse. Alors, ouais, on vient de recevoir du pur N-Pont qu'on va dépolluer et avec des micro-organismes pour que les micro-organismes puissent se multiplier et détruire tout ce qui est mauvais, tous les nitrates et consorts du purin. J'ai deux enfants, deux filles qui travaillent avec moi. Mais heureusement qu'elles sont là, parce que je me souhaitais retrouver bien seul.
C'est la jeune génération qui croit fermement au bio.
Oui, ils croient en leur père, comme toutes les filles. Hein. Ils ont compris que l'agriculture biologique était peut-être l'avenir pour nous, pour la Martinique aussi. Et donc elles y croient énormément. Et ce sont vraiment des défenseurs du bio aujourd'hui.
Toutes les bananes, moi, vraiment, on les voit, mais à flanc de montagne, avec la forêt juste au-dessus. Ouais. C'est vrai que c'est magnifique. Hein.
Ouais, plus on est collé à la forêt, plus les bananes sont belles. Plus on est en plaine, plus il y a des difficultés. Pourquoi? Parce que normalement, c'est l'humidité qui fait qu'on a beaucoup d'insectes et beaucoup de saloperies dans nos cultures.
Et là, c'est l'inverse, la forêt retient l'humidité.
Exactement. Et quand je sème mes micro-organismes, elles ne crèvent pas, elles ne meurent pas.
Je vais vous montrer quelque chose.
Alors,
c'est le centre du régime de bananes. Au départ, c'est une fleur, après ça fait les bananes, et après le tronc, le pied de banane, prend tout dans le sol pour alimenter le régime. Et pour alimenter les bananes, pour les faire grossir, pour qu'elles soient sucrées, etc., etc., etc. Donc, dans cette hampe, nous avons tout. Nous avons de la potasse, nous avons des nutriments, nous avons du calcium, nous avons du fer, nous avons tout. Tout ce que la banane avait besoin a passé par là. Et donc, nous, en la récupérant, nous avons mis des micro-organismes dessus. Et les micro-organismes sont en train de bouffer toutes les cellules. Et quand elles les bouffent, la cellule éclate. Il y a un liquide qui sort. Et après, on les réensemence dans le sol. Et là, ça, c'est notre apport de potasse, surtout de potasse, puisque ici, comme on fait tous nos engrais nous-mêmes, on doit apporter de l'azote, de la potasse, du phosphore, et la potasse, on n'en a pas, à part dans les rampes.
Et ça marche bien ?
Waouh, ouais, très bien. Très bien, très bien.
Et alors là, on voit des... C'est quoi ? C'est des aigrettes garzettes, les oiseaux blancs, là ?
Ouais, ils viennent parce que, comme on coupe l'herbe, ils viennent pour bouffer les insectes.
Mais le fait qu'il y ait des oiseaux, des aigrettes garzettes, de la vie tout simplement, c'est un signe que la nature va bien ici, c'est
Ah oui. On a des iguanes, on a des oiseaux, on a toutes sortes de choses. On a un oiseau qui s'appelle le merle. Le merle, c'est une catastrophe. Quand vous avez des merles, vous n'avez aucun autre oiseau autour, parce qu'il prend la place de tout le monde. Il fait un paquet de petits, ça se multiplie, ça gueule pendant toute la journée. Eh bien, vous avez des merles de Sainte-Lucie, de l'île d'à côté.
Donc une petite île à côté, voilà.
Une île à côté. Ce sont des merles qui sont beaucoup plus petits et qui vivent en bonne. Et eux, ce sont des fainéants. Ils ne font pas de nid et ils ne s'occupent pas de leurs œufs. Eh bien, ils vont dans les nids des merles de Martinique, ils jettent les œufs du merle et ils pondent, ils foutent le camp. Donc au bout d'un moment, le merle de Martinique commence à disparaître, il n'y en a plus. Et eux, comme ils ne peuvent plus se multiplier, parce qu'ils ne couvrent pas les œufs, eh bien, ils meurent aussi. Et donc, ça vous fait un vide sanitaire. Oui, naturellement, ça se fait. Et ça, c'est encore la vie, hein, ça. Hein.
Comment... Faut laisser faire la nature, quoi. C'est la morale de l'histoire.
Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est une philosophie, c'est une façon de penser. J'aime bien cette façon de voir la nature, cette façon de voir aujourd'hui mes amis, cette façon de voir, voir mes employés, voir la population en Martinique, discuter. Oui, c'est... C'est une façon de vivre qui est complètement différente.
Restez avec nous, on se retrouve dans un peu plus de 3 minutes après le Flash Info pour découvrir un cacao d'excellence bio et le premier Roma OC bio de Martinique. C'est pas du vent, à suivre.